Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour, je reçois Jean-Luc Espanel. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Alors Jean-Luc, tu es avec moi ici dans le studio afin de nous parler de ce qui occupe une grande partie de ta vie, c'est-à-dire Fournambule. Tu es boulanger, mais un boulanger, on peut dire, pas comme les autres.
Voilà, boulanger itinérant. J'ai monté un four à bois sur une remorque et donc je vais au-devant des gens. L'idée, c'est de rencontrer le maximum de personnes et puis de faire circuler, montrer à voir ce qu'est une boulangerie, la fabrication du pain sous toutes ses formes et voilà.
Alors avant de rentrer dans les détails et de décrire ton projet de Fournambule et ce que ça implique réellement, comment on va faire un petit peu l'histoire et ton portrait, comment est-ce que tu démarres la boulangerie est-ce que c'est une vieille passion ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé récemment dans ta vie?
Bah en fait, tout gamin, enfin je devais avoir entre 8, 9, 10 ans, c'est vrai que j'aimais beaucoup regarder les livres de cuisine qu'il y avait chez mes parents. Et notamment un en particulier qui avait de très très belles photos, de très belles photos de pain. Et je me suis dit, tiens, ça me plairait, j'aimerais bien faire du beau pain comme ça, comme sur les photos. Donc j'ai demandé tous les ingrédients à ma mère qui me les a fournis. Puis j'ai commencé à essayer de faire du pain. Je dis bien essayer parce que ça n'a pas été franc succès. Je pense qu'il ne donnait pas tout dans la recette, on garde toujours un petit secret. Et donc, c'était des pains quand même assez plats. Et un jour, j'ai réussi à en faire de très beaux. Mais bon, c'était pas vraiment ça. Donc, je suis passé à autre chose, à d'autres plats cuisinés. Mais voilà, j'ai commencé par faire du pain très tôt. Et puis ensuite, je me suis retrouvé dans une boulangerie, un peu par hasard, en 2002.
C'est-à-dire qu'entre ce moment-là où vous êtes enfant et 2002, il n'y a pas un moment donné où vous allez faire un apprentissage, vous ne devenez pas boulanger, rien
non,
du tout.
Non. J'ai eu un parcours un peu
atypique,
qui partait à droite à gauche. Et voilà, comme je disais, un peu par hasard, je me suis retrouvé en boulangerie, dans une boulangerie particulière, puisque c'était une boulangerie où, en fait, il y avait deux fours dans deux lieux différents. Deux fours à bois, un four à chauffe direct et l'autre avec un gueulard. Voilà, ça parlera un peu à ceux
alors,
qui connaissent.
Alors là, voilà, c'est voilà. Là que moi, je ne vois pas.
Un four à chauffe direct, c'était un vieux four qui avait plus d'un siècle, c'était à Ouen, dans le Beaujolais. Un four dans lequel on met le bois directement sur la sole. La sole, ce sont les pierres où on mettra le pain à cuire. Donc là, il faut, une fois que le bois a brûlé, répartir les cendres et puis nettoyer le four avant d'y mettre les pains. Et le four à gueulard, c'est un autre système où la flamme vient par en dessous et on oriente avec une espèce de bouche là. On oriente la flamme à gauche, à droite, au centre pour bien répartir la chaleur. Voilà, donc j'ai fait le pain pendant 5 ans dans cette boulangerie où on pétrissait à la main. On travaillait principalement avec notre corps. Tous nos sens, c'est ce qu'il y avait d'intéressant. Il n'y avait pas de pétrin mécanique, on pétrissait avec nos mains. Et on enfournait ensuite dans ce joli four à bois où il n'y avait pas de thermomètre, donc il fallait là apprécier la chaleur du four en jetant une poignée de farine à l'intérieur et qui, lorsqu'elle prenait une bonne couleur dorée, indiquait que le four était à bonne température et qu'on pouvait y mettre les pains. Donc voilà, c'était une boulangerie où j'aimais bien travailler, aussi parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient, qui étaient là en reconversion finalement, des gens qui avaient travaillé dans différents corps de métier, qui gagnaient pour certains très bien leur vie, mais qui ne trouvaient pas de sens à leur vie parce qu'ils étaient trop dans quelque chose de cérébral, intellectuel, et qui avaient besoin de retourner retourner à quelque chose de plus concret, mettre les mains à la pâte. Et ben là, ils trouvaient leur bonheur.
C'était une volonté des gens qui tenaient la boulangerie, c'était
Ah ben c'était une volonté, c'est la volonté, c'était de faire du bon pain et aussi de faire en sorte que ceux qui travaillent là ils trouvent leur plaisir. Travailler comme on pouvait travailler avant, avec ses bras, avec ses yeux, avec son nez, avec ses oreilles. C'était associer le plaisir au travail.
Et avoir un peu de sens, j'imagine. On a un rapport hyper direct. Quand on fait du pain, on sait comment on fait du pain et on vend du pain. Et on voit tout de suite qui va le
Voilà.
manger.
Ouais. Et c'est vrai que la satisfaction est là en fin de fournée. Et voilà, on commence la journée en mettant les mains à la pâte et le soir, ben, les jolis pains sortent du four. C'est vrai qu'on n'est pas dans quelque chose d'abstrait, on est dans quelque chose de très concret. Et le pain, c'est pas rien, quoi. C'est aussi, enfin, c'est un aliment qui a plein de sens, à travers l'histoire. Enfin, ça peut amener très loin, quoi. L'origine du pain, les premiers pains, peut-être chez les Égyptiens, comment on a fait le levain, peut-être par hasard, une pâte qui aurait été oubliée dans un coin, dans un lieu chaud et humide, donc qui a permis une fermentation. Et voilà, et puis de fil en aiguille, la technique s'est perfectionnée, on a utilisé des fours. Puis ben, les Grecs, par exemple, avant l'arrivée des Romains, faisaient à peu près 70 pains et gâteaux différents. C'était des experts, on peut dire. Après, sous l'Empire romain, 30 ans environ avant Jésus-Christ, il y avait plus de 300 boulangeries à Rome. Voilà, quand on s'intéresse au pain, on peut être amené à approfondir un peu plus l'histoire, notre histoire, l'histoire de l'humanité aussi. Comment le chasseur-cueilleur est devenu un peu sédentaire et au lieu d'aller récolter les petites graines ici et là, a décidé un jour d'en planter pour pouvoir avoir ça à portée de main. Et puis voilà, c'était le village qui s'est construit, le début de nos sociétés, si on peut dire.
Toi, tu fais partie des gens qui ont tenté leur reconversion à cette occasion dans cette boulangerie.
Voilà, ça me plaisait. Je faisais aussi le marché de la Croix-Rousse. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'était aussi ce contact direct avec les gens. Pouvoir vendre le pain qu'on a fait, le bon pain qu'on a fait. Parce que c'était du bon pain. En 2002, il y a eu un concours Bio Hachette. On a eu deux premiers prix au niveau national. Un pour le seigle, un autre pour le noisette raisin. Et puis en 2007, on est passé à l'émission Bon Appétit, bien sûr, avec Joël Robuchon. Donc, c'est que dans le Lyonnais, c'était un pain qui était très, très apprécié. On avait de la très bonne farine, farine bio, farine Déméter, en biodynamie. Et donc voilà, après avec un levain qu'on ensemençait régulièrement. Tout ça fait que ben on a au final un bon pain, des levées lentes aussi.
Là, ça semble, quand tu décris ce moment-là où du coup tu es à Lyon, ça semble marcher très fort, Joël Robuchon, les prix, le pain, la
Oui, oui,
clientèle.
oui, oui, oui.
Pourquoi à un moment donné tu arrêtes et puis tu décides d'aller faire autre chose?
Ben, j'ai décidé d'arrêter parce que ben, j'étais salarié, c'était pas ma boulangerie, c'était pas mon projet. Et puis le gérant de la boulangerie, Paul, avec qui je travaillais, ainsi que d'autres, qu'avec d'autres, Paul a installé aussi des panneaux solaires thermiques. Et j'aimais bien aussi, j'aimais la boulangerie, j'aimais aussi découvrir ce travail-là,
Tu faisais les deux.
principalement le pain, de
D'accord.
temps en temps un peu les énergies renouvelables. Et puis c'était Lyon, et puis j'ai envie de changer, d'approfondir un petit peu ces techniques-là dans les énergies renouvelables. Donc voilà, il y a eu plusieurs années pendant lesquelles j'ai travaillé là-dedans, ici, dans la Drôme.
Donc avant, entre la boulangerie à Lyon et Fournambule, il y a un moment donné où tu fais carrément autre chose par ici.
Voilà, je fais carrément autre chose, je travaille dans les énergies renouvelables. Et puis, il y a eu donc en 2015 un licenciement économique. Donc, je me suis retrouvé comme ça, sans trop savoir ce que j'allais faire. Pas trop envie de continuer dans le bâtiment, envie de changer. Puis, c'est vrai que c'est une rencontre, quelqu'un qui en m'écoutant parler, un jour me dit, mais ce qui te fait pétiller les yeux, c'est quand tu parles du pain. Et là, je suis resté un peu en suspens, c'est vrai, et je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je remettrais pas la main à la pâte? Et je pensais peut-être partager ici dans le coin un fournil avec d'autres qui font du pain et qui n'utilisent leur fournil peut-être que 2, 3 jours par semaine. Je me suis dit peut-être que je pourrais partager avec eux ce fournil ou le louer. Et puis en décembre 2015, j'ai rencontré quelqu'un dans le Massif central qui était sur quelque chose de très intéressant. J'ai passé 2 jours avec lui, travaillé dans les écoles. Il avait une boulangerie ambulante et pédagogique. Et donc là, quand je l'ai suivi sur ces 2 jours, je me suis dit, bah, c'est ça. Voilà, il faut, ça m'intéresse.
C'est-à-dire qu'au-delà d'aimer de faire du pain et de mettre la main à la pâte, le fait de transmettre ton savoir et ton expérience, c'est quelque chose qui t'a plu?
Bien sûr. Bah, d'ailleurs, dans la boulangerie où je travaillais dans le Beaujolais, on recevait de temps en temps des classes. Et bah, c'est vrai que c'était pas si pratique que ça, parce qu'on avait des fois 10, 15 enfants qui venaient pendant notre fournée. Donc on avait 150, 200 pains à faire. Et il fallait en plus s'occuper des enfants. Donc c'était pas toujours pratique. Et là, avec ce projet-là, bah, je peux me rendre entièrement disponible. Et être dans la pédagogie et la transmission.
Alors, c'est un projet qui semble avoir plusieurs facettes. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu te promènes avec ton four sur ta remorque, tu fais du pain, mais voilà, est-ce que tu le vends? Est-ce que tu fais que des séances pédagogiques? Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, quand je suis sur les foires, je montre, je fais le pain devant les gens, je le pétris, je le façonne, et puis je le vends. Et là, c'est intéressant de discuter avec les gens parce qu'ils sont pas habitués à voir un four à bois, un boulanger qui fait le pain sur la place publique. Donc là, c'est l'occasion d'échanges très intéressants, surtout avec les anciens qui parlent de leur four à eux, de comment ils faisaient le pain. Et c'est très riche, ouais.
Et puis, les horaires des boulangers font qu'on a rarement l'occasion d'aller voir l'atelier d'un boulanger en passant comme ça dans la rue. Je veux dire, les horaires sont pas très commodes. Moi, quand je sors de chez moi pour aller au travail, et le pain, il est cuit déjà.
Oui. Alors, en boulangerie bio, c'est vrai qu'on de plus en plus on voit des gens qui travaillent la journée. Nous aussi, dans le Beaujolais, on travaille le jour. Parce que, en fait, le pain bio, quand il est au levain pur, sera plus digeste le lendemain. Diderot, par exemple, dans ses encyclopédies des métiers, disait pain d'un jour, ou c'est une phrase qu'il avait prise quelque part, enfin je l'ai vu là dans cette encyclopédie, pain d'un jour, œuf d'une heure. C'est-à-dire que le pain sera plus digeste 24 heures après, tout comme l'œuf de la poule une heure après avoir été pondu. Donc, il n'y a aucune nécessité, enfin, dans ce cas-là, de faire du pain durant la nuit, parce que sinon, le matin, on va servir un pain aux gens qui est très bon aussi, mais qui sera peut-être moins digeste que s'il a 24 heures.
Alors, au-delà de retourner un peu à la source et de faire du pain, un peu le truc ancestral qui nous lie comme ça avec les siècles qui passent, aussi on a un respect du travailleur, du coup, parce qu'il n'est pas obligé de se lever à 2 heures du matin.
Oui, tout à fait. Ouais. Et puis on n'est pas en décalage, on n'est pas en décalage par rapport aux autres. On travaille le jour et voilà. Et puis le pain qu'on va pouvoir donner, bah, sera mangé le soir. Il est très bon aussi, hein. Mais le lendemain, il sera encore meilleur. Il va développer ses arômes, ou même voire 2, 3 jours après. On sent des arômes qui ne sont pas présents, des saveurs qui ne sont pas présentes le premier jour, par exemple.
Est-ce qu'il y a des foires sur lesquelles tu es présent régulièrement ou est-ce qu'on peut venir te voir?
Bah pour l'instant, on va dire que l'activité démarre. Là, je suis sur un petit tremplin. J'ai fait la foire des fruits d'hiver à Sceaux, la foire, le marché de Noël à Jaillance. Et puis pour ce printemps, j'ai d'autres foires qui vont être prévues. Voilà, c'est pas particulièrement en ce moment la saison des foires, mais petit à petit, je vais être de plus en plus présent sur les foires.
On a une foire de printemps, Adi.
Ah ben, voilà.
Début avril.
Voilà, il faut que je vois ça.
Voilà, au cas où. Et alors, tu fais cuire, tu montres aux gens, vraiment c'est en mode comment pédagogique, tu montres aux gens sur les foires comment on fabrique du pain, mmh. Et puis ensuite tu le vends. Et il y a d'autres facettes à ton activité ?
Bah, une qui me plaît aussi beaucoup, c'est aller travailler dans les écoles. Donc bah, là, c'est aller à la rencontre des enfants. Et... C'est un véritable régal, quoi, avec les enfants, de les voir mettre la main à la pâte, de voir tous ces petits chérubins.
Ils ont une curiosité hyper saine et hyper innocente.
Oui, tout à fait. Et moi, bon, je me régale. C'est un plaisir de les voir. Bon, chacun, je commence par pétrir la pâte. Alors, le plus gros, je le fais moi, parce que sinon, ils vont s'en mettre partout. Et une fois que la pâte commence à être bien ferme, là, ils vont pouvoir faire des rabats. Voilà, je leur donne des gros morceaux de pâte. Ils s'amusent à tour de rôle à faire des rabats. Puis ensuite, pendant la première phase de lever la pointe, ben, je leur propose des petits jeux dans une salle, soit dans la même salle, soit dans une autre salle. Des petits jeux pédagogiques où je mets l'accent plutôt sur le sensoriel. Ensuite, troisième partie, ils reviennent façonner. Donc là, chacun va avoir un petit bâton. Il va pouvoir façonner son petit pain. Voilà, en répétant les gestes que j'aurais montrés. Et puis, il va pouvoir le décorer avec des petites graines ou de pavots ou de tournesol. Et puis, pourquoi pas faire des petites tresses et les mettre par-dessus. Et ensuite, bah, souvent, c'est l'heure de manger. Donc, pendant cette phase-là, moi, je vais donc allumer le four, le monter en température et puis mettre ensuite à enfourner tous les petits pains. Et les enfants les récupèrent dans l'après-midi. Voilà.
Il y a tout un volet explicatif sur la farine,
bien sûr.
La fermentation. Mmh. Et, ça dure longtemps, une animation comme ça ?
Avec une classe de jusqu'à une trentaine d'élèves, ça dure sur la demi-journée. Ça peut se faire. Voilà, moi, j'arrive à 8h, je repars à 14h, en gros. Mais bon, voilà, j'essaie de faire quand même quelque chose de compact parce que c'est par rapport au planning qu'il y a dans les écoles, à l'emploi du temps. C'est, bon, il faut arriver à caler ça dans un assez court. Et bah, je sais que je vois les yeux des enfants briller, c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de fort aussi d'avoir cet échange avec les enfants.
Si tu devais choisir un aspect de ton travail, ce serait peut-être celui-ci.
Ah oui, je pense, oui. C'est leurs yeux, dans leurs yeux, il y a voilà, quelque chose de pur, ils sont dans la contemplation, dans l'émerveillement, et c'est ce qu'il y a de joli, oui. C'est important que les enfants puissent voir ces gestes, puissent mettre la main à la pâte sous toutes ces formes différentes. Je sais que gamin, j'aimais bien regarder le plus possible, voir le boucher par exemple, ou un voisin qui était forgeron, mon oncle qui s'occupait des brebis, voilà, c'est... Alors, est-ce que... Maintenant, je pense que les enfants sont ouverts sur l'extérieur, davantage qu'il y a quelques décennies en arrière. Et c'est tant mieux. Je sais qu'à une époque, j'ai eu l'occasion, il y a une vingtaine, d'aller à Damas, de passer du temps là-bas, et d'aller en Syrie, et il y a des souks de Damas, souks d'Alep, où on voit toutes sortes de métiers qui se donnent à voir dans la rue, des petites échoppes où les gens sont par terre, et puis il y aura le chaudronnier, celui qui travaille le cuir, le souffleur de verre. Et tout ça, on peut le voir, parce que bon, c'est le climat aussi qui fait ça, peut-être. Puis il n'y a pas les normes qu'il y a ici en France, mais c'est quelque chose de magique. Et puis j'imagine pour les enfants qui grandissent dans cet environnement, voilà, on parle d'orientation, après les enfants, on leur dit « bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Ben, c'est pas toujours évident pour eux de savoir parce qu'ils ont pas vu, ils savent pas, quoi. C'est quelque chose d'un peu hermétique, les métiers des uns des autres. Oui, hein. Il y en a qui sont plus visibles que d'autres, mais il y en a plein qui sont cachés derrière des portes, des fenêtres. Et là, de voir tous ces métiers dans la rue, quoi, c'est quelque chose de fascinant. Et il y avait ça à une époque où les métiers anciens étaient là, se faisaient. Les portes des garages étaient ouvertes, et puis on voyait le forgeron, peut-être, le bûcheron. Il y avait beaucoup de choses qui étaient plus visibles avant, je pense, que maintenant. Mais bon, peut-être que c'est en train de s'inverser, et puis tant mieux. Et là, à travers le pain, aller amener la boulangerie dans les écoles, c'est aussi aller dans ce sens-là. Montrer à voir.
Vous avez déjà commencé, enfin, t'as déjà commencé ces sessions de comment dire, d'animation, ou c'est déjà des choses que tu fais régulièrement et t'as des demandes?
J'ai des demandes là pour le printemps, j'ai déjà commencé cet automne. Mais comme je disais, c'est un démarrage pour l'instant, donc je suis pas encore en rythme de croisière. Pas encore. Mais voilà, il y a un début à tout et je suis dans cette phase-là.
C'est quelque chose que tu aimerais développer pour en faire une activité au
Bien
quotidien,
sûr, bien
d'accord.
sûr. Voilà.
Comment on fait pour te joindre, Jean-Luc?
Pour l'instant, j'ai un numéro de portable. Alors c'est le 06 33 29 09 20. Et j'ai pas encore de site. Ça, je vais en faire un pour ce printemps. Voilà, pour l'instant, voilà, j'ai ça, un numéro de portable et je contacte les écoles. J'ai déjà contacté 200, 300 écoles dans toute la Drôme. Donc, voilà, je les relance et je suis en train de préparer le terrain pour l'an prochain. Il y a déjà quelques dates de fixées pour ce printemps, mais là, ce que je fais, c'est principalement pour l'an prochain. Voilà.
Il suffit de se mettre en route, qu'une école en parle à une autre, et ainsi de
Voilà,
suite.
après
Et
ça
puis,
fait
on a son petit répertoire qui
boule
grossit.
de neige.
Voilà.
Voilà.
Vous pourrez joindre Jean-Luc et puis éventuellement lui demander de, je sais pas, de venir sur une foire ou de venir lui proposer une animation dans une école, tout ce qui vous fera plaisir pour qu'il puisse transmettre son savoir-faire et sa passion. Et c'est vrai que ça se ressent que tu es passionné
Ah
et que
oui.
tu as trouvé. Mais bon, tu as l'air de beaucoup, comment dire, d'aimer le changement. Alors peut-être qu'après Fournambule, qui sait, qu'est-ce que tu inventeras encore?
Ah, je sais pas. Non, mais là, il y a déjà pour de longues années quelque chose à faire et voilà.
Merci beaucoup, Jean-Luc Espanel,
Merci à toi.
d'être venu parler de ta philosophie autour de ton projet dans le studio de Erdiwa. Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews sur notre site internet, le www.rdwa.fr. Merci d'écouter Erdiwa. Salut à tous.
On ne choisit pas son parrain ou ses petits cousins.
On subit parfois, c'est pas mieux, ses oncles ou ses neveux.
Mais l'on peut choisir au moins ses amis ou ses copains.
Je n'ai rien à moi, tu n'as rien à toi, nous mettons tout en commun.
Tous deux nous le savons bien, rien ne vaut un bon copain.
Si t'as des ennuis, moi j'ai des ennuis, si t'en as pas, j'en ai pas. Lorsque j'ai de la joie, tu sais comme moi qu'il y en a aussi pour toi.
À deux, l'on peut faire le tour de la terre.
L'amour, il en faut pas trop, juste à peine ce qu'il faut.
Pour le reste, c'est certain, rien ne vaut un bon copain.
Il en faut pas trop, juste à peine ce qu'il faut.
Pour le reste, c'est certain, rien ne vaut un bon copain.
Quand un chagrin nous a blessés, qu'on est prêt à pleurer.
Quand au contraire, on sent son cœur éclater de bonheur.
Un copain, c'est épatant. Ça écoute et ça comprend.
Tout ça, il est toujours là, qu'il y ait des hauts et des bas.
Tout va mal ou tout va bien, rien ne vaut un bon copain.
Et comme il connaît nos petits secrets, on ne peut rien lui cacher. On peut se fâcher qui vous croyez, rien ne peut l'impressionner.
On fait la grimace, il attend que ça passe.
Au cours de la vie, on change d'avis et parfois de femme aussi.
Mais pour faire le long chemin que nous impose le destin, et
marcher main dans la main, rien ne vaut un bon copain.